les jardinières.
Les journées raccourcissent, la pluie a pris ses quartiers un peu partout. Bref, on s'approche de plus en plus de l'hiver. Et ce temps maussade nous donne envie de nous cacher sous le duvet et d'y rester jusqu'au printemps. Mais la nature ne prend pas de repos et pas question de laisser son potager en jachère jusqu'en avril. Idem pour les jardinières qui sont fidèles au poste. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, merci d'être de retour. J'espère que vos vacances se sont bien passées quand même.
Ah ouais. Bah oui, j'ai profité du soleil moi.
Et nous, on a passé une excellente émission samedi passé avec ce cher Mike. Bonjour Philippe également, notre jardinier aujourd'hui.
Ouais, bonjour à vous.
Philippe Détrat, vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel au Jardin des Senteurs et ce matin, c'est vous qui avez la lourde tâche de répondre aux questions de nos auditeurs qu'on attend par
c'est
téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous pouvez taper jardin, ça c'est si vous êtes un petit peu timide et que vous voulez pas passer à l'antenne. Un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire à disposition sur nos sites sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
Et n'hésitez pas à détailler vos questions, ça aidera Philippe à y répondre.
Les jardinières.
Nous sommes le 19 octobre et aujourd'hui, c'est la Saint-René. Alors, j'ai relevé plusieurs dictons pour cette journée. À la Saint-René, couvre ton nez ou reste devant ta télé ou on ondule comme une vaïnée.
C'est des inventions, Samylène, il me semble.
Non, c'est Internet.
Okay.
Alors, dites-nous, Philippe, à la Saint-René, dans le potager, on va se les geler ou revenir tout mouillé? Sinon, plus sérieusement, que faire en cette période humide au jardin?
Alors aujourd'hui, ça sera sûrement tout mouillé parce que voilà, j'ai pas étudié les Saint-René. Voilà, je suis désolé, mais je pense que ça va être aujourd'hui tout mouillé. En même temps, cette flotte, elle fait du bien, on en a besoin. Donc ça va remplir un petit peu imbiber les sols, ça va remplir les nappes phréatiques aussi. Donc ne pleurons pas.
Justement, Philippe, l'automne et le mois d'octobre, c'est justement très important pour partager qu'il y ait vraiment des vraies périodes de pluie.
Depuis des années, moi je remarque qu'on a des très beaux étés indiens où tout le monde apprécie. Non, oui, c'est nécessaire d'avoir de l'eau. D'avoir du stock d'eau, c'est toujours nécessaire. Mais que ça se passe en octobre ou en septembre, c'est pas franchement une...
Ça change rien du tout.
Non, je crois pas. Par contre, c'est clair, travailler au jardin en ce moment, c'est un petit peu difficile, surtout aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait ces derniers jours? On a beaucoup séché de feuillage de plantes aromatiques. On a séché, ça sèche très vite une fois à l'ombre et au sec.
On fait sécher ça dans la maison.
Ouais, moi je le fais dans la maison, dans une pièce inoccupée. Et puis là, on se fait des tas de verveines, quoi. C'est par exemple.
Merci beaucoup, Philippe. Vos questions sont les bienvenues par téléphone. N'ayez pas peur, 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, mais aussi par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Philippe Détrat est l'invité des jardinières. Ce matin, il répond à vos questions jusqu'à 8h.
Et pour débuter cette nouvelle émission, on va replonger dans l'émission de la semaine dernière où vous avez été très nombreux à nous écrire en toute fin d'émission. Et on va revenir sur la question qu'on avait reçue par SMS de Jérôme. Jérôme, qui possède un arbuste de goji et les feuilles sont devenues toutes blanches et il a déjà fait 2 traitements de soufre et les feuilles sont toujours blanches. Comment peut-il faire pour remédier à ce problème, Philippe ?
Alors, j'en ai cultivé aussi quelques-uns chez moi, mais j'ai abandonné parce que j'avais le même problème. Donc, ces feuilles qui sont devenues blanches, c'est probablement une manifestation de l'oïdium, qui est un champignon parasite de la plante et qui va affaiblir la plante. Le traiter au soufre, c'est une excellente façon de faire. C'est, je dirais, la meilleure solution, la moins polluante. Et si ça marche pas, faut peut-être abandonner parce que voilà.
C'est au moins radical comme solution.
On peut laisser cet oïdium sur la plante ou à long terme ça va la tuer?
Ah, ça va l'affaiblir. J'entends, ça va pas tuer la plante, mais ça va l'affaiblir. Donc la plante ne pourra plus faire de photosynthèse correctement. Et si elle peut pas faire de photosynthèse, elle ne peut pas faire sa propre nourriture. Donc voilà. C'est... Ou alors, c'est les produits chimiques, mais bon, évidemment, je ne suis pas pour.
Non, vous n'êtes pas pour. On va rester dans le monde de la nourriture. On a reçu une question de Hugo, qui vit à Nau. Il nous dit « Bonjour, il est temps pour moi de déterrer mes racines d'endives et de les mettre à la cave. J'ai entendu plusieurs versions qui disaient de les stocker au froid plusieurs semaines avant de les enterrer dans des pots ou, deuxième version, de les enterrer directement. Selon vous, quelle est la meilleure solution ?»
Alors, j'en ai jamais cultivé personnellement, mais j'ai des amis qui en ont fait. Donc, petit rappel, là, les endives sont des chicorées, ce qui est une spécialité belge, qui a été développée par les Belges. Et donc, en automne, c'est vrai, on arrache ces plantes, on raccourcit les racines de 15-20 cm environ, on laisse 15 à 20 cm, on laisse beaucoup moins de feuilles, c'est-à-dire 2-3 cm. Et l'idée, c'est de les remettre en culture dans un endroit à l'abri de la lumière. C'est pour cette raison que la chicorée va sortir des feuilles blanches. C'est ce qu'on appelle les endives, ou chicons.
C'était pas une blague, alors, les Belges?
Ah non, c'était pas une blague belge. Non,
il fallait que je le dise.
C'est vraiment eux qui ont développé la culture des endives.
Merci en tout cas beaucoup Philippe pour toutes vos précisions. Ne faites pas vos timides, hein. Ce matin je vous sens un petit peu sur la retenue, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions à notre invité de ce matin dans les jardinières par téléphone 0970 20 20, c'est 36 centimes la minute, mais il y a aussi les SMS, vous tapez jardin espace votre question et vous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Il y a Philippe qui me fait signe, il aimerait le dire quelque chose.
Oui, c'est vrai, pour les endives, j'étais un petit peu court mais bref. Mes amis les faisaient dans du sable, c'est-à-dire ils les réplantaient dans du sable qui tenait légèrement humide pour que la plante se mette à repousser. Comme ça, elle s'était totalement à l'obscurité.
Voilà, on prend note donc du sable pour les endives et puis on les mangera.
Pour rester dans l'obscurité, ça peut être une bonne technique.
C'est bien d'être une endive finalement.
Exactement.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est jusqu'à 8h, donc attrapez votre téléphone pour poser vos questions à Philippe Détras qui nous accompagne ce matin. Ça se passe au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez aussi l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez ce message au 939 ou sur nos sites internet sous l'onglet émission questions jardinières, vous remplissez le formulaire, vous nous l'envoyez, nous on le reçoit, on lit la question et Philippe y répond.
Et justement, on va partir avec des timides comme Marion qui a préféré nous écrire sa question. Marion a des bulbes de narcisses, elle aimerait les planter mais elle n'a pas de jardin. Peut-elle les planter en pot? Si oui, comment? Elle a 5 bulbes. Voilà, elle est précise cette chère Marion.
Voilà, donc il y a pas de problème, elle peut les planter en pot et c'est en fait c'est la saison actuellement, septembre-octobre, pour planter les bulbes à floraison printanière, comme les tulipes, les narcisses, les crocus, les jacinthes et autres. Et elle peut les mettre dans un pot. Nous, ce qu'on faisait quand on en faisait beaucoup à l'établissement, on serrait les bulbes l'un contre l'autre, parce qu'en fait, ils ont des feuillages très longilignes et fins, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place entre les plantes. Donc elle peut, si elle a 5 bulbes, elle prend un pot de, je sais pas, 15 cm de diamètre, ou voire un petit peu plus, et puis elle les plante en laissant juste dépasser la pointe du bulbe. Et puis après, elle peut mettre ça sur son balcon, mais en tout cas pas en appartement. Il faut environ, pour ces bulbes, il faut toujours compter environ 9 degrés pour l'enracinement idéal.
J'avais vu aussi qu'on pouvait planter une technique qui s'appelle la lasagne. Donc on met un bulbe, on laisse un espace, on met dessous. Mais comme vous avez dit qu'il faut
les pâtes, vous les mettez où, Mylène, dans le paquet
dans le
de lasagne?
Dans le four. Est-ce que ça peut marcher comme ça, elle peut en mettre plusieurs.
Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est comme si vous habitiez les uns sur les autres sans étage.
Ah ouais, ça... Voilà la question inutile du samedi matin, elle était posée par moi-même.
Vous voulez retourner en vacances, Mylène?
Ça serait pas mal, oui. Bon, merci Philippe pour ces bulbes. On va passer à une question de Paul. Son voisin lui a conseillé de passer le motoculteur dans tout son jardin, car selon son voisin, octobre est le mois pour nettoyer le jardin. Alors, bonne ou mauvaise idée, le motoculteur pour nettoyer le jardin ?
Pour nettoyer le jardin au mois d'octobre, c'est parfait. Alors là, rien à dire. Par contre, le motoculteur, il y en a qui vont bondir. Par exemple, les gens qui font de la permaculture, le motoculteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va couper la terre, il va ramener en haut de la terre qui est en bas, ramener en bas de la terre qui est en haut. Ça va, entre guillemets, foutre un petit peu le bordel dans
joyeux,
le
joyeux, voilà,
un joyeux bordel dans les couches de terre où les animaux qui vivent naturellement se trouvent bien. Donc des petites bestioles qui devraient être à 10-15 cm de profond vont se retrouver en surface et ça va, voilà, ça va un petit peu gêner. En plus, le motoculteur, s'il y en a des liserons par exemple, ça va couper les racines et ça va multiplier les liserons. Parce que chaque petit bout de racine va refaire une nouvelle plante. Donc on va faire de la multiplication de liserons. Le motoculteur, ouais, pratique. Le mieux, c'est la bêche.
Et puis le motoculteur, quand on regarde la météo, par exemple, de ce week-end, est-ce que c'est conseillé quand même le motoculteur, même quand on a 30 cm de boue ?
Bah justement, essayez, puis vous verrez. Ça va être sérieusement, non. On évite de travailler le sol lorsqu'il est gelé et lorsqu'il est trempe.
Pour rester un petit peu dans cette le motoculteur, donc vous avez préconisé la bêche, ouais. Qui va moins attaquer le sol. Mais alors on plante la bêche, mais ça va
aussi retourner la terre.
Ouais.
Mais c'est moins, c'est peut-être au niveau multiplication des mauvaises herbes, ça va être moins grave. Après, on a des outils qu'on trouve. J'ai plus le nom sous la dent. Là.
La bidette.
Non, un truc qui se plante dans le sol. Puis on va juste aérer le sol.
À plusieurs dents.
Ouais, mais j'ai plus le nom dans la tête. Quoi. Et ça, c'est beaucoup plus doux pour le sol.
Donc voilà, pour le motoculteur, on le laisse plutôt de côté. On reste doux avec son sol. On fait attention. Philippe, vous restez avec nous. Les jardinières, on va faire une pause musicale.
On profite peut-être, Mylène, de rappeler comment nous contacter.
Faisons
jusqu'à 8h. Vous avez les techniques SMS pour les gens timides qui ne veulent pas passer à l'antenne. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939. Vous pouvez le faire également par le formulaire disponible sur nos sites internet. Vous allez sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Et puis d'ici quelques minutes, n'hésitez pas à nous téléphoner au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Le samedi matin, entre 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec les jardinières. Ce matin, c'est Philippe Détra, horticulteur bio au Jardin des Senteurs à Neuchâtel, qui répond à vos questions.
Des questions qu'on attend toujours désespérément par téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, venez passer un petit moment avec les jardinières. Vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin suivi d'un espace de votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou vous pouvez choisir l'option formulaire. Les formulaires sont disponibles sur nos sites web sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Il vous reste une petite demi-heure pour poser vos questions, comme l'a fait Chantal qui vit dans la vallée de la Brévine. Elle nous pose la question suivante. Philippe, peut-on planter des hortensias en pleine terre à 1000 mètres d'altitude ?
Alors, comme je plaisantais il y a quelques secondes sur les 1000 mètres de la Brévine, ça correspond peut-être à 1500 mètres d'altitude, puisque la Brévine est une région extrêmement froide qui a des lacs de froid dus à sa construction de vallée qui est un petit peu fermée. Maintenant, les hortensias, en principe, ils devraient, en tout cas, à la Chaux-de-Fonds, ça tient. Hein, et c'est aussi 1000 mètres. Voilà, donc après, j'ai pas d'expérience à la Brévine. Probablement que ça doit tenir aussi. Je me suis vite planté sur un site que j'aime bien et qui nous met que l'hortensia, il va en zone 5 à 9, donc il supporte des froids assez importants.
C'est quoi ces zones, 5 à 9 ?
Disons que Par exemple, sur Neuchâtel, j'ai tendance à dire qu'on est en zone 7. Ça correspond à des températures, grosso modo, jusqu'à moins 12.
C'est l'échelle de Richter des jardiniers, en fait. Hein.
Oui, bah c'est un petit peu ça au niveau du froid. Quoi. Voilà.
On continue avec un autre message, toujours par SMS, et vous continuez à nous envoyer. Merci beaucoup de participer. C'est votre émission, hein, Les Jardinières. C'est une question de Marine qui nous dit qu'elle a acheté un ginkgo l'année dernière. Et elle souhaite savoir si c'est le bon moment de le planter. Merci et belle journée.
Alors, pas de problème. Donc, c'est un arbre que l'on peut planter parfaitement en automne. On peut le planter aussi au printemps avant qu'il débourre. Ça, c'est un petit peu la règle, un petit peu pour tous les arbres fruitiers ou d'ornement. Maintenant, je vais juste vous reprendre, Raphaël. C'est ginkgo. Donc,
voilà,
c'est G-I-N-K-G-O, qu'on prononce souvent ginkgo.
Il ressemble à quoi, cet arbre?
Alors, surnommé l'arbre aux 100 écus.
Les pièces, hein, Raphaël.
Oui, j'avais compris. C'est le matin, vous savez.
C'est des feuilles qui deviennent jaune-orange en automne et qui sont parfaitement. C'est juste magnifique. Et puis, en fait, c'est un conifère. C'est un conifère. Donc, dans les aiguilles sont soudées, ce qui nous donne l'impression d'avoir une feuille. Et puis, il a une particularité, cet arbre, c'est qu'il est soit mâle, soit femelle. Donc, on a meilleur temps de planter des mâles, c'est pas du tout, je vais pas faire du sexisme.
Mais j'espère bien.
Non, mais si on a des plants femelles, on risque d'avoir des fruits. Et puis, les fruits, ils ont une désagréable odeur de caca de chien. Donc, quand on marche dessus, c'est pas terrible.
Voilà, c'est dit. Donc, on espère que cette personne qui nous a écrit, Marine, on espère qu'elle a un arbre mâle.
Mais on espère pour elle, voilà. Clairement.
On va enchaîner avec une question reçue encore par SMS. Une question qui nous vient de José de La Chaux-de-Fonds, qui nous dit: j'ai un Dipladenia qui est tout en fleurs dans une véranda non chauffée et je me demandais comment le garder pour l'hiver. Dans l'appartement, dans un garage avec fenêtres, etc. Et elle vous remercie d'avance.
Voilà, donc les Dipladenia, moi je les conserve pas en orangerie. Une orangerie, c'est un endroit juste anti-gel où on met les orangers, par exemple, ou des palmiers. Moi je les tiens à 2 degrés, mais le Dipladenia, il aime pas trop. Donc je préfère les rentrer à une température de 15 degrés. Donc en appartement, ça va être dur parce qu'il fera sûrement plus chaud. Et puis dans la véranda non chauffée, ça va être dur aussi parce que sûrement plus froid.
Donc le garage est une bonne option?
Non, parce que cette plante garde ses feuilles, donc elle a besoin de lumière.
Elle dit qu'il y a une fenêtre, un garage avec fenêtre.
Bon, après, ça dépend de la fenêtre.
Ouais, c'est vrai que souvent les fenêtres de garage sont plutôt petites. Donc.
Viser 15 degrés, 10-15 degrés. Voilà.
Donc dans l'appartement, vers une fenêtre, proche du balcon, quoi.
Ouais, et puis dans une pièce peut-être moins chauffée.
Il fait 15 degrés chez vous, Raphaël?
Bon, écoutez, non, pas dans mon salon, mais peut-être dans d'autres pièces de mon appartement. Mais je ne veux pas tout dévoiler comme ça, ou aussi tout le matin, quand même.
On se réjouit d'en
apprendre. Non, mais réjouissez-vous pas, Emile.
Passer à une question sur des poireaux.
Exactement, puisqu'on va partir dans le potager, puisque là on est dans les plantes d'intérieur pour savoir comment les conserver pendant l'hiver. Et on a reçu ce message de Bernard de Vaumarcus. Bonjour, j'ai découvert des mouches mineuses dans mes poireaux. Comment faire pour m'en débarrasser? Et est-ce que ma plantation est foutue?
C'est foutu. Ouais, c'est un petit peu embêtant, surtout en ce moment, parce que les mouches, elles ont pondu dans les feuilles. Donc, je ne sais pas si c'est de la mouche mineuse ou de la teigne. C'est une sacrée belle cochonnerie, de toute façon. Alors, j'ai regardé sur Internet, parce que je ne fais pas de légumes, je fais des plantons de légumes. Alors, j'ai vu que quelqu'un laissait sécher un petit peu les jeunes plantes 2 jours avant de les planter. Je trouve un petit peu bizarre comme solution. Ou laisser les mouches pondre. Il faut être aux aguets, hein. Donc, laisser les mouches pendre et ensuite supprimer les feuilles où les mouches ont pondu. Là aussi, il faut avoir des bons yeux, hein. Voilà, donc c'est difficile. C'est un légume qui est assez attaqué.
Mais si on coupe le poireau, parce que maintenant on peut les consommer et qu'on trouve des vers dedans, ces mouches, un petit rinçage, on peut manger ou...
Ouais, non, c'est bon. Hein. Puis peut-être même que ça fait des protéines. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais pas trop, quoi.
Ouais, non.
Mais une fois lavé, c'est bon. Hein, le poireau n'a pas le goût d'une mouche ou quoi que ce soit.
Ouais, et puis bon, on va éviter... Bon, on peut savoir le goût d'une mouche en même temps.
Ouais, j'en sais rien. Et puis on va éviter évidemment les produits phytosanitaires chimiques.
Merci en tout cas beaucoup Philippe d'être là. Vous restez encore un petit peu avec nous. L'émission va encore durer une petite vingtaine de minutes et vous pouvez continuer à lui poser vos questions. Alors vous êtes très branché SMS ce matin, donc je rappelle comment ça marche par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939. Vous pouvez également passer par le formulaire à disposition sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et on aimerait bien aussi entendre une ou deux voix autres que les nôtres. Et ça vous pouvez le faire au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Philippe Détrac qui répond à vos questions. On a d'ailleurs reçu, Raphaël, une question via le formulaire.
Exactement, elle arrive de Delémont, elle est posée par Sophie qui nous dit qu'elle a récupéré de la rhubarbe qui a une vingtaine d'années. Et il y a un bout de questions qu'on n'a pas tout à fait compris. Donc si Sophie veut nous réécrire un deuxième message sur le formulaire pour peut-être préciser, je vais la lire exactement telle qu'elle est. Nous avons récupéré de la rhubarbe qui a une vingtaine d'années et demandé dans notre jardin. Que faut-il faire en particulier au printemps pour qu'elle pousse ?
Oui, je pense que c'est si elle est demandée, c'est qu'elle est très demandée. Donc, parce que tout le monde l'aime. Mais voilà, donc elle peut prendre cette rhubarbe et l'éclater la souche, c'est-à-dire l'éclater en quelques morceaux et les replanter maintenant. C'est le moment idéal. Mais si possible, pas dans un endroit où il y a déjà eu de la rhubarbe. D'ailleurs, je rajouterai ça aussi pour les poireaux, à cause de ces mouches et de l'éteigne. Évitez de replanter des choses où il y a déjà eu ces plantes, parce que ça fidélise les parasites.
Juste revenir sur la rhubarbe, moi ça m'interpelle. 20 ans, on va avoir une rhubarbe.
Oui, c'est possible. Ouais. Par contre, il ne faudra pas oublier que, une fois qu'elle a fait ce travail de plantation, elle ne s'épatouche pendant 3 ans. Sinon, elle va l'épuiser.
Ça marche, c'est noté pour Sophie de Delémont. On va
revenir avec une question de Martine.
Sur le de Marine, c'était son
ginkgo
qu'elle a écrit juste. Elle dit, elle vous remercie pour les informations. Elle espère que ce n'est pas une femelle. Elle aimerait également savoir s'il est possible de planter un olivier en ajoie ou s'il vaut mieux le laisser en pot, donc le planter en pleine terre, on imagine.
Voilà, donc. Je suis désolé, mais la joie, j'y vais pas souvent.
La joie,
j'y vais même jamais.
La joie, c'est pour
400 mètres. 400 mètres.
Est-ce qu'on a le temps, Raphaël, de vite regarder l'altitude?
Non, mais c'est bon, je pense 400 mètres.
Je m'en occupe.
C'est plus bas que Neuchâtel. Donc, moi, à Neuchâtel, j'en ai dehors, ça tient. Mais on a un avantage sur les gens de Porrentruy, c'est qu'on a le lac. Voilà, donc le lac, c'est une source de chaleur en hiver, donc il restitue un peu de chaleur et les plantes, on peut utiliser des plantes un petit peu plus exotiques qu'à Porrentruy.
Porrentruy est à 443 mètres d'altitude.
Voilà, okay. Merci pour la précision.
Là, c'est contre une maison, contre un mur bien placé au sud, à l'abri de la bise, il y a peut-être des possibilités.
Et puis cet olivier, il va donner des olives ou c'est comme un bananier, il fait trop froid, ça c'est juste une plante, ça devient une plante d'ornement finalement.
Alors, l'année passée, j'ai cueilli 1 kilo d'olives sur mon olivier, mais ça ne se mange pas comme ça. Hein. C'est tout un travail. Hein. C'est absolument épouvantable à goûter. Et puis le bananier, vous oubliez. Il faut le rentrer.
Merci Philippe pour ces précisions. On va parler un petit peu des outils du jardin. C'est Samantha qui aimerait savoir si elle doit nettoyer ses outils avant de les ranger dans la cave. Elle avait lu qu'il fallait les désinfecter. Alors comment doit-elle s'y prendre ?
Désinfecter, c'est un grand mot à mon avis. C'est pas vraiment utile. Simplement les laver avec de l'eau savonneuse et puis bien les sécher pour les stocker, pour éviter la rouille.
Est-ce qu'on doit déjà ranger ses outils au mois d'octobre ?
Ouais, quand on a fini de bosser au jardin, quoi, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé de les ranger maintenant, mais une fois qu'on a fini le boulot, ben voilà. Et puis, Mylène, elle nous a trouvé le nom de la petite...
Ah oui, on parlait tout à l'heure du motoculteur et de la bêche. Et Philippe nous parlait de cet outil avec deux manches et toutes les dents. Et en cherchant sur Internet, on a trouvé... Enfin, je me suis souvenue une grelinette. Voilà.
Exact.
C'est très joli comme nom.
Ouais, c'est joli.
C'est plus joli exactement
qu'un motoculteur.
Ce que je rappelle, c'est des dents que l'on plante dans le sol et avec les deux manches, on fait une traction dessus pour aérer le sol, mais sans retourner la terre.
On vous rappelle peut-être rapidement les numéros et comment nous contacter, puisqu'il reste moins de 5 minutes dans cette émission. Si vous voulez profiter d'une dernière question, vous n'hésitez pas, 0971 70 20 20. Vous pouvez faire un SMS, taper jardin, votre espace, votre question au 939 ou via le formulaire à disposition sur nos sites.
On parlait il y a quelques instants d'un olivier en Ajoie. C'est Joachim de la Chaux-de-Fonds qui dit qu'il a un petit olivier en pot et qu'il aimerait rentrer dans sa véranda pour cet hiver, sauf qu'il a vu des petits pucerons dessus il y a quelques temps déjà. Doit-il traiter d'une manière ou d'une autre la plante avant de la rentrer?
Alors c'est préférable effectivement s'il y a des pucerons. Bon, ça m'étonne qu'il y ait des pucerons sur des oliviers, mais voilà, pourquoi pas. Le savon noir ça va très bien, hein, puis sinon il y a des produits qu'on peut utiliser en culture bio qui vont aussi parfaitement bien, qui sont extrêmement violents, mais c'est pas parce que c'est bio que c'est inoffensif, hein, donc faites attention. Sinon savon noir, c'est pas mal.
Diluer dans l'eau, un petit coup de pchit.
Voilà, bon, faudra le faire fréquemment.
On a le temps encore, Raphaël, pour une question.
Oui, je pense. On a Jacques qui nous a écrit qu'il a des rosiers, mais ses feuilles jaunissent et tombent. Et il se demande quoi faire pour ne pas les voir dépérir et espérer avoir de belles fleurs au printemps prochain quand le soleil reviendra.
Alors, ces rosiers sont peut-être atteints de différentes maladies. Les rosiers sont passablement atteints par des maladies fongiques, donc des champignons. Et puis, si les champignons, comme le mildiou, par exemple, ont atteint ces rosiers, les feuilles vont tomber plus rapidement que normalement. Mais c'est absolument normal qu'un rosier perde ses feuilles en hiver, en automne. Et puis, au printemps, eh bien, il faudra le tailler pour qu'il refasse des nouvelles pousses. Il faudrait aussi ramasser les feuilles qui sont tombées au sol et puis les brûler ou s'en débarrasser de façon à ce que les spores de champignons ne réapparaissent pas trop vite la prochaine année.
Est-ce qu'il y a une raison qui fait que les rosiers soient plus attaqués que d'autres plantes?
Oui et non. Il y a des rosiers qui sont parfaitement résistants
à plein
de maladies. Lorsque je dois planter des rosiers chez un client, je m'adresse à un rosieriste. Et donc un rosieriste, c'est un spécialiste du rosier et non pas des grandes surfaces. Et je vais lui demander des rosiers résistants aux maladies, parce que ça existe. Donc là, moi j'aime pas les emmerdements, en gros, quoi.
Ah oui, c'est
donc,
plus simple.
Voilà, donc c'est beaucoup plus simple et on va pas devoir traiter très souvent. J'ai un collègue rosieriste dans la région de Vaud qui lui-même n'est pas en bio, mais qui fait du rosier propre.
Merci Philippe. Ce matin, nous avons parlé justement de rosiers, de poireaux, de grelinettes, de ginkgo. Et Philippe Détra, vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel, vous avez répondu à toutes ces questions. L'heure tourne et il est presque temps de vous relâcher dans la nature, Philippe. Mais avant ça, place à notre traditionnelle question de fin d'émission. Que faire au jardin fin octobre? Mi-octobre.
J'avais oublié cette question.
Fin octobre, le 19, ouais. On peut dire qu'on est fin octobre.
On y est, ouais. Comme on en a parlé tout à l'heure, nettoyage du jardin de façon à pouvoir reprendre facilement les travaux du jardin au printemps. Il y a une chose aussi pendant l'automne ou l'hiver, c'est-à-dire planifier son jardin potager, c'est-à-dire imaginer des rotations de culture de façon à, comme je l'ai dit avant, ne pas fidéliser les parasites. Avoir aussi des plantes qui ont des besoins de nourriture différentes et qui vont changer de place pour éviter d'épuiser le sol, là aussi. Donc, c'est toutes des petites réflexions qui peuvent se faire dans des journées pluvieuses comme aujourd'hui.
Justement, moi, je me posais une question, parce qu'on le sait, la semaine prochaine, il va y avoir le changement d'heure. Est-ce que ça a une incidence aussi sur les habitudes au jardin en cette fin du mois d'octobre?
Non, peut-être juste sur l'heure où le jardinier se réveille.
Non, parce que la luminosité, parce qu'il va faire de nouveaux jours beaucoup plus tôt, donc est-ce que ça a aucune incidence?
Ça ne change rien,
ça va rien changer.
C'est juste la pendule.
Ne m'engueulez pas, je pose une question, moi.
Je me
renseigne.
Non, c'est juste la pendule, comme disait Mylène.
En tout cas, merci beaucoup, Philippe, pour votre présence chez les jardinières de ce matin. On rappelle que vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel, au Jardin des Senteurs. Et on vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. On vous dit à tout bientôt.
Merci à vous aussi.
Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h pour de nouvelles aventures en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Mais n'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions. Faites-le à tout moment par SMS ou via le formulaire disponible sur nos sites internet. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et puis on se voit la semaine prochaine.
Exactement, avec grand plaisir. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.